Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Valérie Porteret, auteure du livre « Vous n'aurez pas les enfants » aux éditions XO, qui retrace fidèlement l'histoire du sauvetage de 108 enfants du camp de triage de Vénissieux. Il les sauve de la déportation. Valérie Porteret, bonjour.
Bonjour.
Août 1942, une organisation de résistance se met en place après l'arrestation d'enfants et d'adultes. Une organisation composée de personnes de tous horizons de la société lyonnaise sous la protection du cardinal Gerlier. Alors malgré les circonstances dramatiques, vous avez mis en avant les belles actions de cette période dramatique. C'était une volonté de votre part de regarder le verre à moitié plein malgré justement ces circonstances ?
Non, en fait, c'est toute la première partie de ma recherche a été de travailler sur la grande rave du 26 août 42, mais avec l'idée justement de comprendre comment au moment de ce pic génocidaire, au moment où tout était si bien ficelé en fait pour prendre au piège 10 000 juifs étrangers de la zone dite libre et 2 400 juifs étrangers de ce qui constituait la région de Lyon, des hommes et des femmes ont entrepris une action aussi incroyable. C'est donc en fait, si vous voulez, en toile de fond, il y a l'horreur, la rafle, la déportation et aux Juifs au final. Et puis sur le devant de la scène, il y a ceux qui ont combattu, qui ont permis que les chiffres soient justement les chiffres de la déportation soient freinés et surtout qu'on ait le plus grand sauvetage d'adultes et d'enfants jamais entrepris dans un camp en France.
C'est quelque chose qu'on retrouve ça dans la société française, ces personnes qui sont entrées en résistance et qui ont permis ainsi de sauver des Juifs de la déportation.
Moi, je pense qu'on est à force de d'avoir des recherches pionnières en micro-histoire où on est allé chercher ce qui s'était passé au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. On s'aperçoit, en tout cas, ça a été le cas pour les 10 départements qui constituaient la région de Lyon, on se rend compte qu'on foule des terres sauveuses. Et ça, c'est très important parce que en suivant ces trajectoires individuelles, on se rend compte que à chaque fois, on retrouve dans la société, de partout, que ça soit dans l'épicentre à Lyon et puis ensuite dans les campagnes, on retrouve une chaîne de solidarité de personnes qui n'attendaient que ça, de tendre la main à ces personnes qu'on destinait à une mort certaine. Et tout ça appuyé par les réseaux, les organisations de résistance, les associations humanitaires.
Et même des personnes très haut placées, là on parle du cardinal Gerlier, qui va s'exposer, qui va se mettre en danger pour appuyer ce sauvetage.
Oui, en fait, en réalité, à Lyon, c'est une ville déjà où on a énormément d'œuvres charitables qui travaillent au sauvetage, bien avant la rave du 26 août 1942. On a à Lyon une exception française, c'est la présence des plus grands théologiens progressistes en faveur de l'interconfessionnalité qui œuvrent non seulement au niveau intellectuel avec des productions de textes qui prônent ces idées et en même temps ces mêmes personnes-là qui demandent qu'on applique ces idées-là et eux-mêmes sur le terrain de l'entraide et du sauvetage. Et c'est ainsi qu'on a des grands acteurs comme le père Chaillet, l'abbé Glasberg, qui travaillent et qui sont dans l'entourage du cardinal Gerlier. Cardinal Gerlier qui, en vérité, a déjà tissé des liens avec la communauté juive depuis très longtemps, puisque il a été le parrain des enfants du frère du président du consistoire Heilbronner, qui viendra se réfugier d'ailleurs à Lyon en 41. Cardinal Gerlier qui en fait a toujours patronner les comités de secours. Les comités de secours à Lyon, si vous voulez, l'Amitié chrétienne qui va œuvrer à Vénissieux, elle a une histoire, une genèse. Au départ, ça a été le comité de secours aux Allemands qui ont fui dès l'arrivée de Hitler, puis c'est devenu le comité de secours aux Allemands et aux Autrichiens. Donc on comprend l'Autriche qui est sous la botte nazie, puis ça deviendra le comité de secours aux réfugiés. Et là, c'est toute cette Europe envahie par le Troisième Reich, avec des gens qui, de partout, des juifs, mais aussi des opposants politiques, qui cherchent refuge en France. Et régulièrement, ces hommes et ces femmes qu'on retrouvera à Vénissieux ont finalement travaillé au sauvetage, puis finalement chacun de leur côté, puis puis ensemble, notamment au comité de Nîmes, qui est un comité qui défend la cause des internés des camps de Vichy, hein, ces camps qu'on appellera les antichambres de la mort. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui déjà, depuis des années, ont pris l'habitude de travailler ensemble, des gens qui ont la connaissance, je veux dire le père Chaillet, l'abbé Glasberg, comme le résistant Hubert Lesage, qui va leur faire cette proposition de travailler avec lui au sauvetage au camp de Vénissieux, sont des gens qui ont voyagé, qui ont vu ce que c'était que le national-socialisme, qui parlent plusieurs langues. Vous voyez, la cause des bannis de Hitler, c'est leur cause. Et ils ont compris que pour avancer, évidemment, il fallait avoir une haute autorité, un patronage très puissant. Ils ont le pasteur Bonheur qui patronne également l'Amitié chrétienne. Mais le patronage le plus puissant, et ils le savent, c'est celui du cardinal Gerli. Et effectivement, dans le combat qui ensuite va... le dernier combat qui va jouer pour sauver les enfants, c'est que le préfet n'arrive pas à remettre la main sur ses enfants exfiltrés au camp. Et là, c'est vraiment le cardinal Gerlier qui va pouvoir entreprendre ce combat et le réussir au point que, comme l'a dit Serge Klarsfeld, Pierre Laval sera obligé de demander qu'on ne leur soumette plus de convoi de déportation. Alors que c'est eux-mêmes qui, 3 semaines avant, avaient négocié avec les nazis pour travailler avec eux et notamment qui avaient demandé la déportation des
Serge enfants. Klarsfeld, qu'on va retrouver dans la préface de votre ouvrage. Pour revenir à cette résistance, à ces hauts personnages qui se sont mis, eux, en danger, qui se sont exposés, ils connaissaient la vérité, ils savaient ce qui se passait après la déportation, qu'il y avait des chambres à gaz, l'extermination.
En tout cas, ce qui est très clair, c'est que même à l'intérieur du camp, même les hommes qui n'étaient pas les sauveteurs, c'est-à-dire ceux qui allaient subir dans leur chair l'affaire de Vénissieux, dans le sens où ils devaient recevoir ou pas un ticket à la libération, c'est-à-dire à la Vissou, ou alors le ticket à la déportation et donc d'être conduits à Auschwitz, tous avaient conscience que hors de France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils quittaient la France et qu'ils allaient à l'Est, ils savaient qu'ils ne pourraient, il n'y avait aucune chance pour survivre là-bas.
Et ça a été le cas. Les parents des enfants déportés ne sont jamais revenus, pour la plupart.
Ah oui, vraiment, la plupart des enfants sauvés seront des orphelins d'un et la plupart de deux parents, et quelques-uns d'un parent, et on le voit tout de suite. Et d'ailleurs, si vous prenez le cas des enfants d'Izieux qui, eux, incarnent la tragédie juive alors que les enfants de Vénissieux incarnent le sauvetage, aucun des enfants d'Izieux n'est revenu. Vous voyez, ils auraient été, eux, pour le coup, gazés dès leur arrivée. Et d'ailleurs, sur les 108 enfants sauvés au camp de Vénissieux, j'en ai identifié 90. Sur les 90, malheureusement, 3 seront repris. À l'intérieur du camp de Vénissieux, ce qui a aidé... d'obtenir la cession de paternité des enfants, c'est que les sauveteurs, comme en tout cas la plupart des adultes et notamment les hommes qui étaient enfermés dans les groupements de travailleurs étrangers, veulent tout faire pour de toute façon faire en sorte que leurs enfants restent en France. En fait, déjà, ils ont tissé des liens très forts depuis, par exemple, si vous prenez les enfants de les 108 enfants, oui. Les 90, la moitié viennent de Belgique, ont fui la Belgique de parents étrangers. Ils ont tissé depuis 40, pour certains, des liens très forts avec des villageois. qui leur ont donné du travail, qui les ont aidés pour l'hébergement. Et ce lien est déjà tellement fort que si vous prenez, par exemple, les familles qui venaient du petit village de Saint-Sauveur en Ardèche, eh ben, ce sont les pères, les mères qui demandent aux sauveteurs que leurs enfants, ensuite, soient remis dans les familles qui les ont déjà aidés.
Et ce sont des liens qu'ils vont garder après-guerre, souvent.
Ah oui, moi, c'est justement pour ça que mon travail, ça a été de suivre ces enfants, déjà depuis leur fuite.
En zone libre.
De remonter à la fuite qui avait été faite par leurs parents depuis l'arrivée d'Hitler. Ensuite, de suivre ces enfants depuis la France jusqu'à l'Araf. Et ensuite, leur exfiltration jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'il restait quand même 2 années. Le sauvetage, c'est la nuit du 28 au 29 août 42. Et la fin de la guerre, enfin, en tout cas, en France, la libération, c'est septembre 44. Chaque enfant demandait qu'on retrouve les filières, de trouver pas que le sauveteur de cœur, c'est-à-dire celui qui avait pris en charge cet enfant le plus longtemps, celui dont il souvenait, celui avec qui il avait tissé des liens d'amour, mais aussi toutes les organisations qui avaient permis que cet enfant arrive dans ses familles, dans ses lieux, et comment cette chaîne de solidarité en réalité avait pu fonctionner et aussi bien fonctionner. Parce que le sauvetage, il a réussi à l'intérieur du camp de Nicieux, c'est vraiment l'opération coup de poing, et ensuite, il fallait qu'il soit maintenu pendant 2 années, d'où en réalité cette mise en avant de la voix du cardinal Gerlier, et puis de cette opposition de la population qui a été émue, qui a été choquée, et qui a l'occasion de tendre la main et d'avoir un geste fraternel, de solidarité vis-à-vis de ses enfants. Et d'ailleurs, au tout début, dans les premières heures, on a les proches des sauveteurs qui vont accueillir les enfants, parfois pour quelques heures, pour quelques semaines, et beaucoup de la communauté juive qui venait d'Alsace, de Strasbourg, oui. Et même dont le rabbin Brunswick. Mais à l'intérieur même de l'OSE, de l'œuvre de secours aux enfants, et qui vont œuvrer aussi à Vénitieux sous le paravent de l'amitié chrétienne. Vous retrouvez le docteur Joseph Veil, vous retrouvez, aussi des gens de la communauté juive qui ont qu'un seul souci, c'est de faire en sorte que ces enfants ensuite soient cachés dans des familles non juives, parce qu'ils savent très bien que le piège de Vichy ne va pas s'arrêter aux juifs étrangers. Après les juifs étrangers, ce sera les juifs de France. Donc, ils savent que pour donner une chance à ces enfants de survivre et de ne pas être pris, c'est d'arriver au fond à ce que tous soient placés dans des familles non juives.
Et scolarisés également sous des fausses identités.
Alors, c'est ça, c'est-à-dire que l'enfant caché est un enfant qui vit pleinement, alors sauf à des moments où quand les dangers courent, on remet en place des systèmes évidemment qui sont plus durs pour de cage de protection de l'enfant, par exemple quand les Allemands se rapprochaient d'un village, là parfois on a caché l'enfant dans un lieu particulier, mais en réalité au quotidien, les enfants vivaient comme les autres enfants de leurs protecteurs. Ils allaient à l'école, ils allaient au temple ou dans les églises le dimanche parce qu'ils voulaient vivre comme les enfants, sous de fausses identités. La plupart des enfants, quand ils étaient dans les familles, on les faisait passer pour des cousins, des cousines qui étaient venus se réfugier chez eux. Donc, il fallait qu'ils vivent normalement, en fait, en réalité.
Vous avez magnifiquement illustré avec des photos d'archives votre ouvrage « Vous n'aurez pas les enfants ». Comment est-ce que vous avez retrouvé ces photos témoins essentiels dans ce livre document ?
Mon souci, moi, ça a toujours été de retrouver les noms des enfants et de leurs parents, ensuite de mettre des photos, des visages sur ces noms, des histoires sur les visages. Et il est vrai que, du coup, j'ai toujours cherché à retrouver ces enfants qui étaient la preuve charnelle de ce sauvetage. Et à chaque fois que je les ai rencontrés, toujours eu un temps très fort en découvrant les albums photos de ses enfants, puisque en fait je découvrais le visage de leurs parents, dont la plupart donc ont été gazés à Auschwitz, et donc on était, si vous voulez, ensemble dans une vengeance dans le projet de Hitler, c'est-à-dire que normalement, en fait, faire abstraction de toutes ces individus, et là, on les faisait ressortir, en fait, avec, grâce au sauvetage, à l'enfant sauvé, on pouvait, en réalité, rouvrir des recueils de paroles. C'est pour ça que la parole de ces enfants a été la plus précieuse des paroles, parce que avec eux, on pouvait redonner une histoire à toutes ces personnes qui avaient été piégées à Vénissieux. Et en fait, on se rend compte avec des albums photos où vous retrouvez l'enfant sauvé en vacances à la plage avec ses parents devant le magasin en Autriche, en Allemagne. On s'attache pour le coup à ces personnes-là. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est que cette histoire de Vénissieux, c'est une histoire où on s'attache. On n'est pas dans la froideur du crime,
de corps sans nom.
On est dans l'attachement du sauvetage. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je voulais qu'on puisse retrouver aussi devant le livre, pour montrer toute l'importance quand on a sauvé une vie, quand on a lutté contre le crime, contre l'humanité, c'est là qu'on retrouve de la chaleur. Et en réalité, moi, c'est tout ce que j'ai ressenti en retrouvant ces enfants sauvés. Puis aussi, au départ, les sauveteurs. J'ai quand même pu rencontrer et partager longtemps des moments avec Lily Garrel, avec Charles Lederman, m'entretenir longtemps avec Jean-Marie Soutou, avec rencontrer Elisabeth Hirsch, Madeleine Barrault. Et moi, ce qui m'avait ému, c'est que ces grands sauveteurs qui avaient agi à l'intérieur du camp de Vénissieux, ben en réalité, c'était des personnes qui me demandaient tout de suite si j'avais des nouvelles de ces enfants sauvés, s'ils allaient bien, si... Vous voyez, ils n'ont pas mis en avant un acte héroïque, et ça m'avait profondément touchée. Et puis, pareil, les enfants sauvés, ils ont été sauvés, mais tout ce qui était... Alors, ils étaient fiers d'avoir été sauvés parce qu'ils parlaient de leur descendance, mais quand on parlait de leurs pauvres parents qui avaient dû les quitter, c'est là qu'on retrouvait toute l'émotion, la dramaturgie aussi de la Shoah, en réalité, du crime, parce que en réalité, on leur a pris ce qu'ils avaient de plus précieux. Mais également avec le sauvetage, ils nous parlaient des sauveteurs, et c'est ça aussi, ils nous parlaient de la tristesse avec laquelle ils avaient dû quitter leur sauveteur de cœur après la guerre. Mais c'était ce qui avait été conclu, et on a respecté la parole qu'on avait, la promesse qui avait été faite aux parents de les remettre aux leurs, à ceux qui auraient survécu, vous voyez. Oui. Et sauvetage, c'est ça, c'est du respect de tout ce qu'on a dit, tout mis en place. Et c'est ça, en fait, que je voulais comprendre. Comment ça s'était passé? Est-ce que ça s'était bien passé comme ça? Comment on vit un événement particulier de l'intérieur? Parce que si on veut que nos jeunes s'attachent également à cette histoire, il faut qu'ils ressentent quand même qu'eux aussi, ils auraient aimé être sauvés, mais et pas connaître ce crime. Et que, du coup, vous voyez, il y a un attachement. Et je pense que retrouver les photos, retrouver la parole des gens qui ont vécu ça.
On entend bien que cette quête n'est pas terminée pour vous, historienne. Donc on rappelle juste que cette histoire est la base de votre thèse d'histoire, 1300 pages, duquel vous avez extrait cette histoire du sauvetage des enfants de Vénissieux. Et on sent que la quête n'est pas terminée.
Non, tout à fait. Et puis, vous voyez, c'est une histoire qui peut se partager avec des philosophes, avec des c'est pour ça que Cyrulnik, il était là, ma soutenance de thèse, et il a également préfacé l'ouvrage, parce qu'en réalité, on a des questions très fines. C'est-à-dire l'histoire, elle peut s'analyser et nous porter sur d'autres thématiques. Et c'est pour ça que, par exemple, en éducation morale et civique, ça serait une histoire fabuleuse à enseigner, parce qu'à la fois, On a les questions, les thématiques de la religion. On voit qu'on a des gens de toute religion qui ont décidé de faire fi de leur différence, parce qu'en réalité ils se respectaient avec une idée en tête, c'est sauver le plus possible de personnes. Puis on a des gens aussi qui croyaient pas, puis on a des gens qui ne partageaient pas les mêmes opinions politiques, on a des gens qui n'avaient pas le même héritage, et ben toutes ces personnes là ont trouvé des points communs, les valeurs républicaines. Elles étaient là aussi avec les instituteurs également, qui ont eu un rôle très important dans la vie de ces enfants sauvés. Vous voyez, à Saint-Sauveur, on a même une maîtresse, une institutrice. Elle a vu les enfants avant la RAF, elle les a récupérés après la RAF, elle a annulé la fête des mères. On a, la plupart des instituteurs étaient en même temps secrétaire de mairie, produisaient des faux papiers, vous voyez.
Des histoires d'humains, des modèles à mettre en avant pour notre jeunesse aujourd'hui.
Ça serait, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de, voyez, de se dire qu'en fait le bien à un moment peut gagner. Quoi, on est au moment du pic génocidaire, on réussit la plus belle entreprise, la plus grande entreprise de sauvetage sans armes. En 3 jours, on exfile 471 personnes, la moitié des personnes dans un camp, et tous les enfants.
Et tous les enfants, ils vont profiter de cette confusion à un protocole qui n'est pas encore totalement fixé pour sauver tous ces enfants.
C'est ça, c'est de la stratégie. C'est merveilleux. En tout cas, moi, c'est une histoire qui m'a porté toute ma vie. J'ai mon projet de vie professionnel, bien que j'ai jamais été rémunérée pour faire ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai vécu jeune fille avec cette histoire. J'ai vécu maman avec cette histoire. J'ai grandi avec cette histoire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis, je pense que ça rend courageux.
C'est pour ça, on revient à la question du début, que vous vous êtes évertué à mettre en avant cette belle action, cette belle humanité, ces liens entre humains qui paraissent évidents, mais qui ne l'étaient pas à ce moment-là. Valérie Porteret, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes historienne, auteure de l'ouvrage « Vous n'aurez pas les enfants », c'est chez IXO Documents. Merci.
Merci beaucoup.